Si le gavèr vyen, an ur mignan. Si le gavèr vyen, an ur mignan. Zayn alo. Rav Acha, b'shem Rav Chanina, amar. Rav Acha rapporte au nom de Rav Chanina. B'sha'a, she'ala Moshe l'amarom. Lorsque Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour recevoir les luchot, la Torah. Shama kolo shel HaKadosh Baruch Hu sheyoshev ve'osek beparashat Parah Aduma. Il a entendu la voix de HaKadosh Baruch Hu qui étudie, enfin qui s'occupait de la parashat de Parah Aduma ve'omer halacha v'shem omra. Et il dit, il rapportait la halacha au nom de celui qu'il avait dit, Rabbi Eliezer Omer, Egla Batchnata ou Para Batchtaï. Quand dans la Torah, on parle d'une Egla, comme dans l'exemple de Egla Rufa, ça c'est la génisse dont on brise la nuque. Lorsque vous souvenez, lorsqu'on a trouvé un cadavre, et on n'a pas trouvé l'assassin, alors on amenait sur un terrain vierge, on amenait une génisse dont on brisait la nuque, et les gens de la ville la plus proche où il y avait un bédin venaient, ils lavaient les mains, ils disaient, c'est pas de notre faute que telle et telle, que cette personne-là a été tuée. C'est-à-dire, il n'est pas passé dans notre ville et on ne lui a pas donné à manger ou on ne lui a pas accordé une escorte. On n'a pas fait ce qu'on... On n'a pas vu, on ne connaît pas. Donc, comme là-bas, il s'agit d'une Egla, la Torah, elle dit Egla Arufa. Egla, c'est une génisse. Alors, une génisse, Rabbi Eliezer dit, Egla, c'est Batchnata. C'est un animal d'un an. Et la Para Aduma, c'est Batchtaïm. Para, c'est la vache rousse, c'est un animal qui a 2 ans. C'est ça la halakha qu'il a dite au nom de Rabbi Eliezer. Oui, comme toujours, toutes les choses ont un chiour, une mesure. La mesure d'une para, c'est d'avoir 2 ans d'âge. La mesure d'une égla, c'est de n'avoir qu'un an d'âge. C'est-à-dire, on ne pouvait pas casser la nuque d'une para ou bien brûler une égla. Torah dit, je veux une égla pour égla Rufa et je veux une para pour para Aduma. Alors il a entendu, Moshe Rabbeinu a entendu qu'Hachem disait cette halakha au nom de Rabbi Eliezer. Amar lefanav ribon haolamim yehi ratzon sheye mechalatzai. Alors Moshe Rabbeinu a dit devant Hachem que ce soit une volonté devant Hachem que ce Rabbi Eliezer soit un de mes descendants. Puisque la halakha est comme lui, bon, il faut une siata d'Ishmaïa, etc. En quelque sorte, il a souhaité être l'ancêtre de ce Rabbi Eliezer, puisque la halakha est comme lui. Amarlo, alors Kadosh Baruch Hu lui a répondu, Chayecha, Shehu Michalatzecha. Par ta vie, en fait, je jure, donc dit, oui, il est un de tes descendants. Adaou dirtiv, c'est ce qui est écrit dans le pasouk, Shem Aechad Eliezer, Shem Oto Hamiyuchad. Il y a un pasouk qui présente les 2 fils de Moshe Rabbeinu, et on nous dit, Shem Aechad, le nom de l'un, c'est Eliezer. Eliezer était le nom du premier fils de Moshe Rabbeinu. Et l'autre, c'est Gershon. Donc, comme c'est marqué Shem Ha-Echad, le, c'est Eliezer, c'est de celui-là. En d'autres termes, le Midrash fait comme si l'enfant de Moshe Rabbeinu, c'est lui. Shem Ha'echad, on présente ses enfants, c'est cet Eliezer-là, qui vient de génération après. Le Ha'echad, ce n'est pas son fils. Shem Ha'echad, c'est le nom du Ha'echad. Oto Amiuchad, celui, le singulier ici. Bon. Voilà ce paragraphe-là. Le Etz Yosef dit ici, Ayecha Shehu Mechalatzecha, Shaya Levi, Vain Bamidbar Rabba, et dans Shaim Sota, donc ce Rabbi Eliezer, il était Lévi. Donc c'est possible qu'il soit un descendant de Moshe Rabbeinu, en tout cas. C'est pas sûr, mais c'est possible. Parce que Moshe Rabbeinu était un Lévi. Daoud Irtiv, Veshem Ha'echad Eliezer, c'est l'omar, Dayalo, l'omar, Shem Ha'cheve, Shem Ha'cheni Eliezer. Parce qu'en fait, il a Gershoné Eliezer, oui. Ça veut dire le nom du deuxième. Quel est Drasha, Veshem Ha'echad Amiuchad. Parce que comment il est le passou? C'est pas son premier fils, c'est son deuxième fils. Le pasouk dit, le pasouk, c'est au début de Parchat Yitro. Yitro revient avec Tzipora et les deux fils de Moshe. Vaikar Yitro choten Moshe et Tzipora et Shet Moshe, achar shiluchea, après que Moshe les renvoyait chez elle, puisque vous vous souvenez, quand Moshe Rabbeinu, quand Hachem lui a dit qu'il pouvait revenir parce que les gens qui voulaient le tuer n'étaient plus là, il pouvait revenir en Égypte pour faire sortir les Bnei Israël, il est parti avec sa femme et ses enfants. Et quand il est arrivé, Aaron lui a dit, mais qui tu as amené là? Ben, il dit, j'ai amené ma femme et mes enfants. Il dit, mais ça va pas, non? Nous, les enfants, les femmes et les enfants qui sont là, on peut rien y faire, mais on regrette qu'ils soient là et qu'ils souffrent. On est dans l'esclavage. Et toi, tu en amènes? Ça va pas. Alors, il a renvoyé Tzipora et les enfants pour les mettre à l'abri chez leur père, chez le père de Tzipora. Et quand Yitro est venu, alors il est venu avec Tzipora et les enfants, et à ce moment-là, le verset nous les présente. Le pasouk nous dit Vechne Baneha, Asher Shem Ha'echad Gershom. Le nom de l'un, du un, c'est Gershom, qui a margué Raïti Beheres Nochria, et ce qui viendrait maintenant, Veshem Hacheni, et le nom du second. Et c'est marqué de nouveau, Veshem Ha'echad, Eliezer. Veshem Ha'echad, Veshem Ha'echad. Qui est Elokei Avi Be'ezri, le Dieu de mon père est venu à mon aide, Veyatsileni Mecher Paro, il m'a sauvé du glaive de Paro. Bon, alors, au lieu de dire Veshem Hacheni, c'est marqué Veshem Ha'echad. Alors ce Ha'echad, il vient comme Drasha. Alors, Ha'echad, c'est Eliezer. Mais le Eliezer de Rabbi qui deviendra, c'est Rabbi Eliezer. Donc c'était un tout grand, ce Rabbi Eliezer. Alors vous voyez là, dans la marge de droite, il y a Imre Yosher qui dit sur ce Shem Oto Amiuchad, que Acham Eliezer, Ulay Ba'a Elav Nishmato Begilgul, ou Yatsa Mechalatzav. Bien, c'est un Gilgul du Eliezer du premier, où il est effectivement le descendant du premier Eliezer, donc de Moshe Rabbeinu. Bien, alors qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que ça vient nous dire ça? Qu'est-ce que ça nous apporte de nouveau par rapport à Para Aduma en plus? Ce que nous on cherche, c'est de nouveau un peu un statut particulier de Moshe Rabbeinu par rapport à la Para Aduma. Bon, si vous voulez, dans ce texte, il y a quel est le premier problème? Le premier problème, c'est qu'est-ce que c'est que cette fila de Moshe Rabbeinu? Ribon haolamim yehi ratzon sheyeh michalatzav. Que ce soit ta volonté que ce Rabbi Eliezer, qui dit une halakha de Para Aduma, qui est conforme à la halakha, donc il dit quelque chose concernant la Para Aduma, et c'est conforme à la halakha, c'est-à-dire il a une grande siyata d'Ishmaïa. Alors mon cher Rabbi nous voudrait, enfin demande que ce soit un de ses descendants. Qu'est-ce que ça change si c'est un de ses descendants ou pas? Ce qu'il veut, visiblement, ce que Moshe Rabbeinu veut, c'est avoir un lien avec la paracha de Para Aduma. Alors, si c'est un de ses descendants qui dit la halakha, hein, alors c'est comme si lui était lié à, tout particulièrement, non seulement que la mitzvah elle a été donnée par lui, à travers lui, mais en plus la halakha est aussi comme ça. C'est-à-dire qu'on va jusqu'au bout de la paracha de Para Aduma, puisque la halakha est conforme à à son descendant. Donc quelque part, c'est comme si Moshe Rabbeinu avait un lien particulier avec cette Para Aduma. En vérité, ce que Rabbi Eliezer a dit, c'est à la fois une halakha dans Para Aduma et aussi une halakha dans Igla Arufa. Il a dit une Para c'est 2 ans et Igla c'est 1 an. Donc il dit les deux choses. Ici, peut-être qu'il y a un midrash qui dit la même chose sur Egla Arufa. Mais parce que ici, il n'y a pas de privilège pour la Para Aduma. C'est tout à fait symétrique en Para Aduma et Egla Arufa. Donc si il a lui un lien particulier avec Para Aduma, il aura aussi un lien particulier avec Egla Arufa. Comme si il y avait une importance particulière. Enfin, premièrement, ce qui est intéressant, c'est que quand Moshe Rabbeinu monte, c'est là que Hachem, il en est là, quoi, si on peut parler comme ça. Il en est là dans son étude. En tout cas, c'est ce que Moshe Rabbeinu entend dans l'étude. Donc, Moshe Rabbeinu, quand il vient pour prendre livraison, si vous voulez, de la Torah qu'Hachem donne au Bnei Israël. Ce que la partie de la Torah qui est dite par Hachem à ce moment-là, qui lui est enseignée vraisemblablement, parce qu'il arrive au moment de cet enseignement-là, c'est Para Aduma. Et aussi avec la Rufa d'ailleurs, n'est-ce pas? On s'est présenté comme si en fait il était au sec de Parashat Para Aduma. Alors ça donnerait un rapport avec la Egla Arufa, et pas avec la Para Aduma. Enfin, un rapport avec la mort, mais il n'y a pas un Égyptien, hein, en tant que tel, il n'est pas. D'abord, il ne l'a pas touché, parce qu'il l'a tué avec un Shem. Et même s'il l'avait touché, c'est un goy. Et un goy, il n'est pas mitamé minatora. Donc il n'y a pas de Para Aduma pour une Touma de ce type-là. Si je veux dire, si tu vas jusqu'au bout. Plus, il ne l'a pas touché, il lui a enlevé la vie avec un Shem, en prononçant le nom de Shem. Mais la para, elle a à voir dans les Midrashim, la para, elle a à voir avec, non pas avec la Egla Arufa, mais avec le Egel. Parce qu'on dit que la para, elle vienne nettoyer les saletés du Hegel. Parce qu'en fait, les Bnei Israël au Sinaï, ils ont retrouvé la condition qui était celle d'Adam Arishon. C'est-à-dire, ils se sont retrouvés immortels. Et à cause du Hegel, ils sont retombés dans la mortalité. Donc, les saletés du Hegel, c'est quoi? C'est, voilà, maintenant, il y a la mort. Maintenant, on est obligé de se confronter à la mort. Et donc, il y a l'impureté de la mort. Alors, on dit que vienne la para, c'est la mère du Hegel, la mère du veau, qu'elle vienne nettoyer les saletés de son enfant. Et donc, comme Moshe Rabbeinu dans l'histoire du veau d'or, Moshe Rabbeinu s'est tellement investi pour sauver la mise d'Ebné Israël qui était condamné. Moshe Rabbeinu les a sauvés. Alors, peut-être que quelque part, on peut voir la Para Aduma comme quelque chose qui est lié au Hegel. Et donc, c'est comme s'il voulait être lié à tout le sauvetage des Bnei Israël. Parce que si, d'une certaine manière, si les Bnei Israël sont sauvés, mais que, bon, ça va, Hachem ne les fait pas disparaître. Mais, puisqu'il y a la mort, s'il n'y a pas un processus pour se purifier, ils seront en état d'impureté définitive. Au bout d'un certain temps, tout le monde sera impur dans le clan d'Israël. Bon, puisqu'il y a la mort et on n'a pas de processus de purification. Donc, d'une certaine façon, le clan d'Israël ne pourra pas fonctionner. C'est une mort spirituelle, cette impureté-là. Donc, à la limite, pour aller jusqu'au bout du sauvetage du clan d'Israël, il faut être partie prenante dans le processus de purification des Bnei Israël qui leur permet de sortir de la mort. Alors, il y a quand même quelque chose qui va dans le sens de ce que disait Franck au début, c'est que le nom d'Eliezer, il dit Veshema Echad Eliezer, et pourquoi est-ce que je l'ai appelé Eliezer? Il dit Ki Eloke Avi Be'ezri, le Dieu de mon père m'a aidé, Vayatsileni Micherev Paro, et il m'a sauvé du glaive de Paro. Paro voulait le tuer. Moshe Rabbeinu était condamné à mort. Donc c'est vrai que il y a dans le nom d'Eliezer quelque chose qui indique qu'Hachem l'a sauvé de la mort. Se sauver de la mort, c'est la mitzvah qui sauve définitivement de la mort, si on veut, au sens qui enlève les traces de la mort, c'est la Parah Adouma. Donc Moshe Rabbeinu, quelque part, c'est comme si, de ce point de vue-là, on pourrait dire que Moshe Rabbeinu voulait reprendre la main dans cette chose-là. C'est-à-dire faire quelque chose pour se sauver lui aussi. Puisqu'il a été sauvé par Hachem de la mort. Mais maintenant, il reste se sauver complètement de la mort, c'est enlever la trace de la mort. Enlever la trace de la mort, c'est si vous voulez, être partie prenante dans la mitzvah de Parah Adouma, qui vient pour enlever la trace de la mort. C'est la trace de sa mort à lui, bien qu'il ne soit pas mort, mais à la limite, pour être complètement sauvé, il faudrait qu'il n'y ait plus même de trace de la mort. Alors, il a été sauvé, il n'est pas mort, mais les traces de la mort, il faut aussi les enlever. Donc c'est une façon de, pour Moshe Rabbeinu, de, j'appelle ça reprendre la main, ça veut dire, c'est, Hachem en réalité veut systématiquement que l'homme prenne sa place, au sens de, Hachem veut que nous fassions les choses, qu'il fait, parce que c'est ça, qu'est-ce que l'homme doit faire, il doit copier Hachem, d'accord, et donc faire les choses qu'Hachem fait. Mais ce processus de purification qui est le sauvetage par rapport à la mort, pour Moshe Rabbeinu, lui il voulait se sauver aussi. Alors se sauver, c'est être partie prenante dans la mitzvah de Parah Adouma. Non, c'est lui. Non, la mitzvah de Parah Adouma, c'est lui qui l'a donnée. C'est un pasouk dans la Torah, des psoukim dans la Torah. Ce Rabbi Eliezer, il est bien plus tard, mais parce qu'au moment où on a reçu la Torah au Sinaï, on a aussi reçu la Torah écrite, on a reçu la Torah orale. Et donc Hachem, c'est marqué qu'Hachem, il étudie la Torah orale aussi, et il rapporte, il dit, mon fils Rabbi Meir dit comme ça, mon fils, etc., Eliezer dit comme ça, et la halakha est comme mon fils Eliezer. C'est justement ça que Moshe Rabbeinu a entendu quand il est venu chercher la Torah. Non, mais c'est pour ça qu'il veut que ce soit une prolongation de lui. Je ne suis pas sûr que c'est en termes de mérite. C'est d'avoir un lien avec ça. Voilà. Il veut avoir un lien avec. Oui, c'est ça, tout à fait.
De prendre parti. Parce que s'il ne prenait pas parti, ça
voudrait
dire que.
Il n'est pas contre. Ce qu'il veut, c'est avoir un lien plus fort. Si ce n'était pas son descendant, c'est quand même. Moshe Rabbeinu, c'est notre maître. Et pour un maître, tous les élèves sont ses enfants. Donc, de toute manière, c'est d'une certaine manière son enfant. Il demande un peu plus, il demande qu'il soit plus clairement son enfant, en fait. Que simplement d'être son élève, d'être un descendant, un de ses descendants. Oui.
Quand il a pris la Torah, c'est parce moment-là, il a entendu le passage de la parole à l'imam. À ce moment-là, il faut qu'il y ait un travail. C'est à la fin du temps, il aura, la mort va disparaître.
Oui, mais en attendant, il faut enlever les traces. Paradouma, elle enlève les traces de la mort en temps réel, quoi, pas seulement à la fin. Paradouma, c'était fait pour qu'on ait toujours une paradouma. Et donc, ça veut dire que les traces de la mort disparaissent. Ne nous handicapent pas, si vous voulez. Oui, mais pour ça, on n'aurait pas besoin. Enfin, on a toujours besoin d'une paradouma, mais le propre de la paradouma, c'est que justement, elle nous aide avant la fin de l'histoire. Elle nous aide durant l'histoire. Elle devrait nous aider durant l'histoire, pas seulement à la fin de l'histoire. Non, c'est pas incompatible. Et c'est plus que.
Comment ça pourrait s'articuler avec.
Triatamétim, parce que triatamétim, c'est un autre processus. C'est pas les morts qu'on purifie. C'est les vivants qui ont touché les morts. Les morts eux-mêmes, on les purifie pas avec paradouma. La Torah. Pardon ?
Il la reçoit avant le Vaudor.
C'est-à-dire, il la reçoit quand il est en haut, ils font le Vaudor.
Mais est-ce que c'est vraiment en même temps ou est-ce que...
Oui, ils ont fait le Vaudor pendant qu'il était en haut. Hachem lui a dit redescends. Je te donne pas les. Il avait les tables et il les a cassées quand il a vu le Vaudor. Oui, mais il les a cassés parce que, si tu veux, le Vaudor, on l'a fait quand on avait les tables. Enfin, quand lui, en tout cas, on avait déjà reçu les Aseret HaDibrot, et lui, il avait déjà les tables en main, mon cher Abel.
Oui, donc ça veut dire que c'était prêt, mais c'était le Vaudor. Parce que si on, dans les tables, dans la loi, il y a l'antidote du poisson, c'est qu'on sait déjà qu'il y aura un poisson.
Oui, bon, mais ça, c'est. Que Hachem le sache, ça, c'est déjà. Ça fait pas. Ça ne fait pas problème, c'est une autre façon de savoir. Oui, non, mon cher Abénou, il sait à ce moment-là que quand il arrive, on lui enseigne effectivement. Si c'est ça que tu veux dire, on peut dire pourquoi est-ce que Hachem lui enseigne à lui qui monte au Sinaï alors que les Bnei Israël ne sont plus mortels à ce moment-là la paracha de Para Adouma. On n'a pas besoin de paradouma si on ne meurt pas. C'est comme s'il y avait déjà un remez qu'il y aura quelque chose, qu'on va en revenir à un état où on aura besoin d'une paradouma. À ce moment-là, ce qu'on pourrait dire, c'est que de la même manière que Moshe Rabbeinu est intervenu et nous a. Enfin, il est intervenu pour sauver le clan d'Israël du Vaudor, des conséquences du Vaudor, eh bien, il veut, c'est comme si Moshe Rabbeinu voulait intervenir dans toute l'histoire sur les conséquences du Vaudor. Il est intervenu sur les conséquences du Vaudor en temps réel, au moment du Vaudor, en priant Hachem. Et maintenant, quand il dit, mais je veux être partie prenante sur la Paradouma, c'est dire, je veux être partie prenante sur la réparation des conséquences du Vaudor, le fait qu'on soit devenu mortel, que cette mortalité, enfin, cette condition de mortel entraîne l'impureté, je veux être partie prenante, enfin, je voudrais être partie prenante dans le processus de repurification. Donc ça permet de voir ici la para-aduma comme l'intervention de Moshe Rabbeinu après le Vaudor. C'est ça qu'on gagne, semble-t-il. D'autres termes, et c'est pour ça que probablement toutes les para-aduma qu'on a faites par la suite sont toujours la suite de la para-aduma de Moshe Rabbeinu. Lui, il en a fait une de son vivant. Et c'est avec la sienne qu'on a fait toutes les autres, et qu'on fera aussi celle du futur. Puisqu'en fait, la para-aduma, c'est l'intercession de Moshe Rabbeinu après le Vaudor à chaque fois. Chaque fois que quelqu'un est impur, tout matmet. Chaque fois que Moshe Rabbeinu est impur d'une Toumatmet, pas Moshe, que quelqu'un est impur d'une Toumatmet, eh bien, la Paraduma fait le travail que Moshe Rabbeinu a fait en son temps. C'est-à-dire, enlever les conséquences de la mort. Alors, à une autre échelle, enfin, sans qu'il ne nous rend pas immortels. C'est clair ? C'est important. Ça donne à la para-aduma un nouvel éclairage. Vous affichez.
Moi, je suis très troublé par cette image que Hachem, le chef de Hosek, de par Hachem para-aduma. On a l'impression que c'est comme si Moshe lui avait soumis un texte en disant.
La Torah elle est chez Hachem à ce moment-là.
Oui, mais.
Moshe Rabbeinu vient l'apprendre.
Vient l'apprendre.
Vient le recevoir.
C'est dit d'une manière telle qu'on a l'impression que c'est presque. Comme si Moshe avait fait une proposition à Hachem et Hachem étudie cette proposition de Moshe. Il dit c'est une bonne chose.
La proposition, s'il y a proposition, c'est que ce soit un de ses descendants. Non ? Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Non, mais dans le sens que vous venez de dire là, c'est plutôt Moshe qui dit, bon, dans cette affaire-là, si
c'est mon affaire, quoi.
Je reprends un petit peu la main, propose une procédure pour ça.
Voilà.
Et on dirait que Hachem étudie.
C'est toi qui as inventé la procédure, mais je voudrais être partie prenante à cette procédure, même si je la reprenais à mon compte, quoi, quelque part. J'ai l'impression que c'est une façon de continuer l'intercession après le Vaudor.
Il faut aussi demander une réponse à Hachem là-dessus en disant est-ce que tu es d'accord pour.
Mais à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il ne sait pas qu'il y a le Vaudor.
Non, il ne sait pas.
Non, il ne sait pas.
Mais il ne sait pas, ça le dépasse. Il fait une proposition.
Ouais,
enfin bon, il doit savoir. Il ne sait pas qu'il y a le Vaudor, mais il est face au problème. Si Moshe Rabbeinu, si à ce moment-là les Bnei Israël sont immortels, qu'est-ce que c'est que cette Torah qu'Hachem utilise et étudie ici? Justement, il n'y a rien de plus pressant que d'étudier une situation qui n'existe pas et qui a priori n'a pas de raison d'exister. La paracha de para-aduma, elle parle d'un homme qui meurt. On parle de quelqu'un qui. Ah, aujourd'hui,
enfin,
c'est-à-dire.
Après la faute du légal.
Non, la paracha elle-même, elle a été donnée. Elle était déjà là, si vous voulez, pour être donnée à Moshe Rabbeinu. qui est un petit peu surprenant, hein, c'est le Chayecha. Normalement, Chayecha, c'est un serment. Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas lieu de. Chayecha, que. Chez où, il est de tes descendants. Il est issu de toi. Pourquoi il faut en faire un serment? Chayecha, c'est par ta vie, quoi. C'est pas. Oui, c'est. À la limite, on devrait lui dire, ben, t'as bien. T'as de la chance, t'es bien tombé. C'est vraiment. Il est justement un de tes descendants. Ce que Chayecha veut dire ici, justement, tu es tellement vivant que c'est effectivement ça. Quoi. Ce point-là, exactement, je ne sais pas ce qu'il faut en dire. C'est toi, Chayecha.
Est-ce que ce stade, ça nous permet de revenir sur quelque chose qu'on a pas bien élucidé, qui était, enfin, dont on a pas mal parlé quand même, mais qui est pourquoi le sens n'avait pas été donné tout de suite à monsieur. Il avait dit, la mitzvah lui a été donnée, il a pris, il prend, il va essayer d'en faire quelque chose. Mais c'est du sabotage.
Mais le dévoilement, vous
le dévoilement, c'est plus tard qu'il va être fait par Rabbi Akiva. Donc Moshe n'avait pas eu, Moshe Rabbeinu n'avait pas eu le dévoilement complet. Pourtant là,
sur cette mitzvah-là, il l'a. Peut-être qu'il n'a pas tout, mais cette mitzvah-là, il l'a en tout cas. Alors, ce qui est intéressant, c'est. Lui dit la halakha. Avec les yeux, dit une halakha. Quelle halakha il a déjà dit, je veux dire. Egla, un an. Para, deux ans. C'est quoi le ridouche? C'est qu'on n'a pas dit. On sait bien que Egla, c'est plus jeune que Para. Egel, c'est comme. Egla, c'est comme une génisse. Les génisses sont plus jeunes que les vaches. Alors c'est quoi le ridouche? C'est qu'on aurait pu dire deux, trois, et il a dit un, deux. Qu'est-ce que Rabbi Eliezer a dit de si extraordinaire? La halakha est comme lui, mais qu'est-ce, faut que je regarde, qu'est-ce que les autres pensaient? Qu'est-ce que c'est, Tav Gimel? C'est presque effacé là chez moi. Vous avez. Le Tav Gimel, c'est. Il y a une note Tav Gimel sur Rabbi Eliezer, hein, qui a priori doit nous dire où est la. C'est tout en haut à droite probablement, Bet Amidrash.
Ah oui.
Serait ta maison. On peut regarder dans le Sefer. C'est sur Para peut-être. Para. Peut-être Para Perekalef. Hein. Tu peux prendre Taharot, les Mishnayot de Taharot. Et ça doit être probablement le 2 ou le 3. Je veux dire, le deuxième ou le troisième volume de Taharot, regarde. Para. Ça ne dérange pas? Tu es sûr que c'est Para? Tu as Para là-dedans? Sinon, tu. C'est Taharot 2, peut-être, ou Taharot 3, je ne sais pas. Merci. Merci. Pardon? La parole là-dedans? Non. Non, ça doit être dans le. Dans Taharot Bet. Excuse-moi, je. Voilà. Merci. C'est le premier chapitre de Para, il s'appelle Rabbi Eliezer d'ailleurs. C'est la première halakha de la première Mishnah de Masechet Para. Rabbi Eliezer Omer Egla Batshnata Ufara Batshtaim. Chachamim Omrim Egla Batshtaim Ufara Batshalosh. Donc il a dit 1, 2 et les Chachamim disent 2, 3. Ou bien peut-être même 4. Et Rabbi Meir dit on peut même 5. Ça marche aussi, c'est aussi cachère. Alors là, la halakha est comme lui. C'est lui le plus sévère, quoi, Rabbi Eliezer. Tout le monde est d'accord qu'il faut que la parallèle soit au moins dans sa deuxième année. Et ils disent les uns, ils disent 2, 3, 4, éventuellement même 5. Lui, il dit non, non, a priori, ça doit être seulement dans la deuxième année.
Et lui, il apprend tout possible pour éviter qu'elle ait un loup ou.
Oui, alors ça, ça serait simplement technique. Je veux dire. Oui. Effectivement, comme vous dites, bien, alors c'est effectivement c'est comme ça que commence la Sérette de Para, et là elle a fait comme lui. C'est ça, je pense que c'est ça l'idée, c'est que mon cher Rabbeinu, enfin ce qu'on apprend ici, c'est que la Para Adouma, c'est d'une certaine manière l'intercession de mon cher Rabbeinu tout au long de l'histoire pour que les conséquences du Hegel soient moindres et qu'on puisse sortir de l'état dans lequel le Hegel nous a mis, c'est-à-dire l'état d'impureté. Quoi qu'il ne sait pas qu'il va y avoir ce problème-là, mais il sait que le problème de la mort va se poser puisque la parachelle elle est apprise. Alors ce que vous pouvez dire, c'est que avant même qu'il se soit investi dans le Hegel concrètement, dans le problème de la mort, d'accord, Moshe Rabbeinu, lui, il s'est investi là-dedans. À la limite, donner la Torah, c'est être l'intermédiaire, c'est apporter la vie. Donc c'est normal que Moshe Rabbeinu s'investisse dans ce qui, enfin, pour lutter contre ce qui est le contraire de la vie. S'il y a la mort,
parce que d'un autre côté on dit que
Oui, mais puisque Hachem utilise, à la limite, ce que vous pouvez demander, c'est pourquoi Moshe, on ne nous dit pas que Moshe Rabbeinu a demandé à Hachem, mais puisqu'on est immortel, pourquoi tu utilises ça? Mais cette question-là, de tout ce qu'il y a dans la Torah, il y a aussi, comme, si vous voulez, il y a dans la Torah des choses qui sont. C'est marqué que c'est Yoshua qui fera entrer les bénis Israël en Eretz Israël. Donc ça veut dire quoi? Donc Moshe Rabbeinu sait déjà, hein, avant l'histoire du rocher, avant l'histoire de l'eau, donc, etc., il sait déjà que ce n'est pas lui qui va entrer. Et ça, c'est la fameuse Ta'ana qu'il y a dans le Midrash Tanhuma, que j'ai rapporté souvent. C'est le Tanhuma, il rapporte que. J'ai ouvert le Midrash. C'est le Parchat Miketz. Il a amené nous Rabbeinu à Roet Akshamim Yordim. Bisman Shabriot Sikim Laen. Ketsad ou Mubarech. Quelle bracha on fait. Quelle bracha on fait quand la pluie tombe et qu'on en a besoin. Oui, enfin. Thank you.
choisi.
Basso qui dit que c'est un basso qui est construit sur c'est un morceau de Midrash qui est construit sur la chose suivante. C'est Yosef qui écope de 2 ans de rab parce qu'il a demandé à l'échanson de parler pour lui à Paro. C'est Moshe Rabbeinu qui entre pas en Eretz Israël parce qu'il a frappé le rocher. C'est Adam Arishon qui devient mortel parce qu'il a mangé du fruit, etc. Et ils disent tous à Hachem, mais c'était déjà écrit dans ta Torah. Donc, c'est un prétexte que j'ai fait une faute, que etc. Toutes ces choses-là apparaissent comme des prétextes. Et le Midrash dit oui, qu'elle n'aura à l'ilote, en quelque sorte. C'est le fameux qu'elle n'aura à l'ilote qu'on dit à la sortie de Kippour. Hachem, il est Nora Alilot, il est terrible dans les prétextes, en quelque sorte, qu'il prend. Hachem fait coïncider les deux anagotes. Il y a une façon de gouverner le monde qui est, il y a un projet divin et ce projet doit se réaliser. En même temps, il y a un monde qui est gouverné en fonction de la conduite des hommes. Hachem fait que les deux coïncident. C'est vrai que Moshe Rabbeinu ne devait pas entrer en Eretz Israël. Mais Hachem a fait en sorte que cela apparaisse comme la conséquence de la faute de Moshe Rabbeinu. Alors c'est vrai que, d'après ça, c'est vrai que l'humanité devait être mortelle. Mais Hachem a fait en sorte que cela apparaisse comme les conséquences, comme la conséquence de la conduite d'Adam Arishon. Yosef, il devait rester encore 2 ans en tôle. Hachem a fait en sorte que ça apparaisse comme conséquence du fait qu'il a demandé à les chansons d'intervenir pour lui, etc. C'est terrible, ces choses apparaissent comme des prétextes. En fait, ce n'est pas à cause de ça, ça devait de toute manière se passer comme ça. Mais c'est aussi à cause de ça. C'est ça que le Midrash vient dire. C'est, toi, tu dois considérer que c'est à cause de ça. Maintenant, il se trouve que ça coïncide avec le projet divin. Alors, c'est déjà difficile de... Bon, mais peut-être le projet divin, il ne faut pas du tout le mettre sur le même plan que les conséquences de nos actes. C'est très possible qu'effectivement, à partir du moment où dans la Torah il est écrit qu'il y a un procédé pour retrouver la pureté qu'on a perdue lorsqu'on est venu en contact avec un mort, alors Moshe Rabbeinu sait que voilà, il y a ce problème-là, et ce qu'on peut dire, c'est que Moshe Rabbeinu, je sais pas s'il faut un problème, il s'investit déjà là-dessus. Puisqu'il y a un procès. Le grand problème, c'est la faute de l'homme qui. La faute d'Adam qui nous a fait. Qui nous a rendu. Impurs, si on veut, par contact avec le mort. Mortel, donc impureté. Alors Moshe Rabbeinu qui vient apporter un tikkun, la Torah vient apporter le tikkun de. Donc la réparation des fautes, le moyen de réparer tous les conséquences. Alors Moshe Rabbeinu dit, mais je voudrais bien être partie prenante concrètement dans cette réparation, même si ensuite ça va prendre. Maintenant, nous, on peut interpréter comme on l'a dit ici, que c'est encore plus. Pour nous, ça se présente comme si c'est pas chronologiquement défendable, mais comme si Moshe Rabbeinu en fait s'investissait dans l'histoire de la même manière qu'il s'est investi dans l'événement Vaudor. Et en réalité, on peut même aller un peu plus loin et dire que l'investissement, le véritable investissement, ça doit être celui qui se passe dans l'étude de la Torah. La vraie paradouma, c'est celle qui s'étudie. Et la vraie paradouma concrète, D'accord? C'est celle qui s'étudie et de telle sorte que la halakha apparaisse comme ça. Être celui qui fabrique la halakha dans cette circonstance-là. Aller jusqu'au bout de l'étude, c'est voilà la halakha. C'est ça le vrai investissement. À la limite, maintenant, il faudrait le contraire. Il faudrait dire l'investissement de Moshe Rabbeinu sur l'événement Vaudor, il est la conséquence de cette volonté qu'il a eue de s'investir dans la para Adouma au niveau de l'étude de la para Adouma. Comment il voulait être partie prenante dans cette étude, c'est-à-dire savoir que dans cette étude, il a à voir avec la halakha, avec celui qui va établir la halakha, qui est celui qui fabrique. Avant même qu'on ait une para Adouma quelconque, avant même que le clan d'Israël reçoive, quelque part, dans la Torah orale existe, et Rabbi Eliezer, il dit déjà cela. C'est une certaine manière.
D'une certaine manière, il fabrique de l'éternel.
Oui, c'est ça.
En quelque sorte. C'est-à-dire que.
Tout à fait.
On dirait que de l'éternel, le fait d'être éternel ou d'être immortel, c'est quelque chose de provisoire, puisque.
Et puis après, on va le reperdre.
Ouais. Hein. Donc, si c'est provisoire, c'est que ça peut aussi revenir dans l'autre sens. Et donc, la paradigme, c'est d'une certaine manière, une espèce de solution magique, on pourrait dire, qui permet de retrouver un petit peu de
cette éternité.
De cette éternité.
Tout à fait.
Là, ça expliquerait pourquoi il y a des fantômes qui ne travaillent pas.
C'est ça. Voilà, c'est vrai. Alors, effectivement, c'est à l'envers. Puisque tu le fabriques, alors ça sera effectivement ton descendant. Très bien. Est-ce que le 8 s'arrête en bas de la page ou bien...
Non, il y a la suite.
Non, mais c'est le 8 qui continue ? Ou bien le chet continue,
oui.
Ou bien c'est un tête qui vient après.
Ah,
En bas de la page, le chet continue la page d'après, ou bien c'est Alma c'est égal, c'est terminé après ça. Oui. Je ne sais pas si.
Attendez, je ne sais pas ce que j'ai fait.
Vous avez la page suivante.
Oui.
Est-ce qu'elle commence par un tête ou bien. Ah, ou bien prenez-le. Oui, oui. Bamidbar.
Désolé.
Justement, savoir si Samach Aleph commence par un tête, par la lettre tête ou pas.
Je comprends le problème.
On va commencer le... C'est mieux de prendre Bamidbar, vous avez plus de chances de le trouver. Aleph commence par un tête.
Oui, c'est ça.
Alors on a tout sur la
donc
page.
Donc on a tout le fait. Hein, donc c'est bon.
Shal Oved Kochavim Echad. Donc tête. Echet, pardon. Shal Oved Kochavim Echad et Rabban Yochanan Ben Zakkai. Donc il y a un gars qui a interrogé Rabban Yochanan Ben Zakkai. Et il lui a dit, Ilen Ovdia de Atun Avdin Nirin Kimin Kshafim. Ces pratiques que vous pratiquez, ça ressemble à de la magie. Atem Mevim Para, vous amenez une vache, Sorfimota, vous la tuez, vous la brûlez, Kotchinota, et on écrase les cendres. Donc l'inetefra, on prend ses cendres, vechadmikem metame, mitame le met, et l'un d'entre vous mitame le met, esmazin alav, s'il y en a un d'entre vous donc qui est devenu impur par contact avec un mort, mazin alav. Taim veshalosh tipin, deux trois gouttelettes, deux trois gouttes. Vatem omrim lo tiarta taarta. Et vous lui dites, voilà, ça y est, tu es purifié. Ça ressemble plus à de la magie. Si on lui avait dit, quelqu'un qui s'immerge dans l'eau, il ressort, bon, alors, de même qu'on ressort partiellement lavé, si vous voulez, bon, à ce moment-là, tu es pur. Mais là, avec tes trois gouttelettes là, que tu lui asperges, ça fait pas très sérieux. Ça ressemble à de la magie. Alors il lui a répondu, Rabban Yochanan ben Zakkai, il lui a répondu, Lo nichnesa becha ruach tzazit mi yamecha. Il lui a dit, est-ce que un vent de folie n'est jamais entré en toi? Amarlo, lav, non. Il a dit, Raïta Adam, chez Nichnesabo, voir Tzazit. Tu as déjà vu quelqu'un qui a été pris d'un vent de folie? Amarlo, hen, oui. Amarlo, Uma, Atem, Osimlo. Alors, qu'est-ce que vous lui faites? Amarlo, Mevin, Ikarin, Maashnin, Tartav. Marbitsim alea maim vi borachat. Oui. Il a dit, on amène Icarine, c'est des racines, probablement. Mais Ashnin Tartav, on fait de la fumée sous lui. Marbitsim alea, et on jette de l'eau sur cet esprit mauvais, enfin ce vent de folie là, vibrachat, et ce vent de folie s'en va. Alors il lui a dit, Amarlo, Yishmu, Oznecha, Mashata, Motsem, Ipicha, que tes oreilles entendent ce que tu profères sur de ta bouche. Kacha, Ruach, Azou, Ruach, Touma. C'est. L'esprit d'impureté, il fonctionne comme ça également aussi. Dirtiv, Vgam, Etanviim, Vetruach Atuma, Avir Mina Aretz. Hachem a dit, je vais aussi faire disparaître les prophètes, ce sont les faux prophètes, et l'esprit d'impureté de la terre. Mazin alav meinida veu boreach. On l'asperge avec ses eaux lustrales et cet esprit d'impureté s'en va, s'enfuit. Et c'est ce qu'il a dit au Goy. Le Goy est parti content, il avait compris. La rage yatsa, quand il est sorti, après qu'il soit sorti, Amrulo Talmidav Rabbeinu Leze Dachita Bekane, lui tu l'as repoussé avec un petit roseau. Mais là, nous, Maata Omer, bon, mais nous, dis-nous quelque chose d'un peu plus sérieux quand même. Amar Laem, Chayechem, Loamet Metame, Loamaim Metari. Sachez Le mort rend pas impur et l'eau ne purifie pas. Et là, Marakadosh Baruchu, Chuka Chakakti. Hachem a dit, j'ai littéralement gravé j'ai gravé quelque chose. Un chok, donc. Gzera Gazarti, c'est un décret que j'ai pris. Iatarachei la voral gzerati, tu n'as pas le droit de transgresser mon décret. Parce que c'est marqué Zot Chukata Torah, ceci est le décret, enfin le chok, la règle de la Torah. Umipnema kola korbanot zecharim vezon keva. Il dit pourquoi une ola, les olot, kola korbanot, en tout cas les olot sont des mâles, des animaux mâles, et ici c'est une para, c'est une vache, c'est-à-dire une femelle. Amarav aibo, machal le ben shifra, shetinef, palatin shel meler, ce que je vous ai dit ici. C'est un machal. Le fils de la servante a sali le palais du roi. Amaramelech tavoimo. Alors le roi dit que vienne sa mère. Qu'elle essuie la saleté. Kachamarakadosh baruchu tavo para traper alma c'est aegel. Que vienne la vache et qu'elle n'apporte qu'à para sur l'action du aegel. La dernière partie, on ne sait pas très bien ce qu'elle a à voir avec. On va voir, est-ce qu'on fait. On sait faire le lien. Voilà. En fait, ce que disent les élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est le gars, il a posé une bonne question. Tu as réussi à le renvoyer avec des petits arguments. Mais dis-nous vraiment ce qu'il en est. Alors il dit un truc incroyable. Il dit, vous croyez vraiment que le mort, ça rend impur? Vous croyez vraiment que les eaux lustrales purifient? Hachem a dit, voilà la procédure que je veux que vous fassiez. C'est tout. C'est-à-dire, on va considérer que il y a là de l'impureté. Et on va considérer que voilà une procédure qui enlève l'impureté. C'est ce que je vous ai demandé de faire. Je veux que vous le fassiez. C'est la Torah. Et il n'y a pas de... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est énorme, non? Parce que de la même manière, on va dire... pas de différence entre les animaux purs et les animaux impurs, entre du kasher et du pas kasher, etc. Tout ça, c'est les xérotes. C'est les décrets. Donc, c'est vrai que dans la Torah, il y a des mishpatim qui ont l'air de ne pas être des décrets. Mais quand on zoome dessus, on s'aperçoit que même les mishpatim, ils ont souvent des côtés décrets. Il y a des shiurim de Rav Chassal Abramsky qui vont dans ce sens-là. Il dit, même le Mishpat, on croit qu'on a les mêmes. Des fois, on a la même loi que les Bnei Noir ou que les Goïm. C'est pas. Quand tu regardes un peu plus près, tu t'aperçois que c'est pas la même loi. En tout cas, regardons d'abord celle-là, cette loi-là. C'est-à-dire quoi ? On travaille. Rabbi Eliezer, il a travaillé sur. Pour savoir si la para c'était pour. Si une égla c'est un an, une para c'est deux ans, etc. Et maintenant, à Kadosh Baruch Hu, il dit pas Kadosh Baruch Hu, Rabban Yochanan ben Zakkai dit à ses élèves, rien du tout, hein, il n'y a pas de réalité, il n'y a pas d'impureté, pas de réalité à cette impureté. L'eau à mettre métamé, mais l'eau à maïm métahari, et l'eau non plus ne. Et du coup, l'eau ne purifie pas non plus. sens, ça, c'est que c'est la volonté divine. C'est un travail infini. D'accord ? On passe sa vie à étudier quelque chose qui est ultimement, simplement, c'est la volonté divine, et c'est nous qui allons donner du sens. On va donner du sens. Mais il l'a dit un peu plus, n'est-ce pas ? Il dit, donnez du sens, mais ne vous imaginez pas que le sens, c'est que c'est devenu impur. Ça, tu ne peux pas le dire. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire ? D'accord ? Chayechem, dans votre vie. Alors c'est quoi ? C'est mon regard sur la mort qui me met dans l'impureté. Et l'impureté, c'est pas quelque chose d'objectif, c'est totalement subjectif.
Elle est dans le rapport, en fait. L'impureté, elle est dans le rapport.
Dans le regard que j'ai sur le mort. Mais quand je regarde seulement, je ne deviens pas impur. Quand je touche, si je me regarde toucher, en fait, c'est le mort, alors je deviens impur. Si quelqu'un me dit que j'ai touché, je deviens impur. Mais est-ce qu'il y a du pur et de l'impur ? Si le mort ne rend pas impur, alors le mort, c'est la source d'impureté. Il n'y a pas de source d'impureté plus élevée que celle que... Plus élevée ou plus bas, je ne sais pas comment il faut dire. C'est Avi Avot Atuma. C'est le grand-père dans la famille impureté. C'est le grand-père, c'est le mort. Est-ce que c'est seulement là où c'est marqué Chouka, que c'est comme ça ? Les autres choses ont du sens, mais celle-là, tu peux mettre du sens, mais surtout ne va pas penser que le mort rend impur et que les eaux lustrales purifient. Ça, c'est sûrement faux. Alors, qu'est-ce que c'est que toute cette terminologie, Taharot, Touma, etc. Alors, Hachem a décidé d'appeler ça comme ça. Et nous, on est obligés de respecter. In Yata Rashai, tu n'as pas le droit. Yata Rashai Lavor al Gzerati. Tu n'as pas le droit de transgresser mon décret. Je suis le roi. Tu es obligé d'obéir à ce que j'ai dit. Mais il n'y a rien d'autre que ce que j'ai dit, en quelque sorte. J'ai dit. Il Et à la limite, ce qu'on a vu, c'est que c'est Rabbi Eliezer qui va me dire ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit para. Mais qu'est-ce que c'est une para? C'est Rabbi Eliezer qui va dire comment, ce que c'est qu'une para. Il va discuter, les rachamim vont dire non, une para, ça peut avoir 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et puis ils vont se mettre d'accord que la halakha, hein, non, c'est 2 ans. Quelque part, ce sont les hommes qui vont dire à Hachem ce qu'il a dit, de certaine façon.
Le fait qu'elle soit un rapport avec les idées de la vie et de la mort, ou la pureté et l'impureté aussi, ou l'illusion.
C'est une provocation, non? C'est possible que le rouge ça a à voir avec le sang, mais ça a à voir avec les sables, avec le Yetzirah. La Midat Hadin avec. Mais est-ce qu'il faut dire, jusqu'où il faut aller avec ça? Est-ce qu'il faut dire qu'il n'y a pas plus de Midat Hadin que de Midat Harachamim? C'est une Gzera d'Hachem. Ou est-ce que c'est seulement quand c'est un croc? Qu'est-ce que vous dites, Yosef? Il dit rien.
On dit exactement la même chose, on dit bien, sauf que le cas de la Torah, sauf que le cas de la Parah, sauf que le cas de la Pessah.
Oui.
La Torah, c'est un roc.
Un roc? Ou un roc? Les deux.
Les deux.
Non, mais c'est sur la Parah qu'on dit Zotrokat à Torah. Zotrokat à Torah, il n'est pas dit sur la Torah, il est dit sur la Parah. Oui, mais on dit Zotrokat à Torah, il n'y a pas Zotrokat à Parah. Dans la parasha de Parah Adouma, c'est Zotro Kata Torah. Moi, ça commence. ודבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה. Oui, il y a, c'est ça, il y a une. Mais toi, tu dois leur donner du sens. Dans ton étude, tu vas donner du sens. Ça dépend de ce que j'ai en moi. Oui, effectivement. Il y a le sens, c'est comme si tu disais la chose, un peu comme on dit en mécanique, quantique. Il n'y a pas d'électrons. Si il n'y a pas d'observateur, je ne peux rien dire. Je ne peux pas dire qu'il y a un sens s'il n'y a pas d'observateur. Quand j'observe moi, alors je lui donne du sens. Mon observation, quelque part, c'est le couple, la parade, enfin le mort et moi, ça donne cette impureté, quoi. C'est ça le chok. Le chok dit que toi, quand tu es en rapport, après il va falloir définir qu'est-ce qu'un rapport. D'accord ? On aurait pu imaginer que du seul fait de l'avoir vu, je deviendrais impur. Non. Il faut l'avoir touché. Mais il y a encore d'autres situations. Si tu es sur le même toit, tu ne l'as pas touché, tu es sur le même toit que le mort, tu deviens impur comme si tu l'avais touché. Donc, il y a des circonstances qui sont qui. Voilà, c'est le toi dans telle et telle circonstance. Il y a une impureté. Alors maintenant, ton impureté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire une procédure. Tu es dans un état où tu ne peux pas entrer dans le Betamigdash, ou etc. Il y a des choses, tu ne peux pas manger de la trouma, etc. Dans cet état-là. Le seul moyen d'en sortir, c'est d'appliquer la procédure que je t'ai donnée ici. Cette procédure, comment elle marche? Marche parce que j'ai dit qu'elle marchait. Et c'est là qu'on est, là on est un peu coincé. Parce que là on a du mal à dire à donner des raisons. Alors ce qui pose un peu problème là-dessus, c'est de dire que cette difficulté qu'on a à donner des raisons. Ça veut dire qu'on manque de chokhma. Bon, puisque Shlomo HaMelech a dit, je croyais avoir acquis la sagesse, la chokhma, et voilà que je sèche devant cette affaire-là, donc il me manque de la chokhma. Je suis loin de la chokhma. Alors c'est problématique par rapport à la chokhma. Oui, non, là c'est pas seulement qu'on n'a pas épuisé, c'est qu'on a quasiment rien à dire.
Oui, absolument.
Dans celle-là, il est sec. Il dit je peux rien dire. C'est pas que je dois me dire voilà, j'ai trouvé des raisons, mais ça n'épuise pas le sujet. Ça, effectivement, à la limite, c'est parce que dans cette situation, je suis sec, complètement, que je comprends que dans les autres situations, j'ai pas épuisé non plus le sujet. Il avait l'impression qu'il avait épuisé le sujet. Tant qu'il n'avait pas rencontré. Cette espèce de point.
Mais justement, celle-là nous apprend sur les
autres. Oui, tout à fait. C'est de savoir que là, je suis complètement sec. Ah, alors ça veut dire que je peux plus du tout être sûr que le reste, je l'avais complètement. Peut-être que je suis sec aussi sur l'essentiel. Ce que j'ai trouvé, c'est seulement une petite partie des choses.
Mais là, non.
Mais un instant, et le problème c'est que est-ce que les catégories de pur et d'impur existent? Si le mort ne rend pas impur, il n'y a pas de catégorie d'impureté. C'est par définition toute la notion de touma, pour ne pas dire impureté, d'accord, elle prend sa source dans le corps d'un juif mort.
Mais quand on dit que c'est pas impur, est-ce que c'est dans l'absolu ou est-ce que c'est dans le relatif?
il leur dit, c'est une xéra. Il y a une xéra que, voilà, on va, un peu comme disait Franck, on va définir. Touma, bon ben, voilà les lois, la Touma. Qu'est-ce que ça veut dire être tamé? Ben c'est, ça veut rien dire par soi, simplement, voilà les conséquences. La nouvelle règle de celui qui est tamé, c'est que tu peux pas aller ici, tu peux pas aller ici, c'est comme, je sais pas, si on, voilà, ben, tu, je sais pas moi, c'est au jeu d'échecs, tu croyais avoir un fou, maintenant c'est devenu un cheval. Avant tu avais une certaine mobilité, tu n'as plus cette mobilité. Il te reste encore un tout petit peu de mobilité, mais tu n'as pas une mobilité. La mobilité que tu avais, tu ne l'as plus. Et à la limite, on pourrait dire, je n'ai rien d'autre à dire sur la Touma. Que ça. Que voilà, quand on est tamé, voilà. Maintenant, les états d'âme du tamé, enfin, quelque part, il n'y en a pas. Et pourquoi tu ne peux pas faire ça? Parce que j'ai dit que c'était comme ça. C'est la nouvelle règle. C'est comme un pion qui arrive à Adam. Il arrive à Adam. D'un coup, il a des nouvelles règles de fonctionnement.
Et
si c'était rock, ben les gens, c'est la règle.
Oui, mais alors là.
Quand tu te dis, si tu te dis que je comprends, et dans un sens, que je comprends avec ma compréhension, ça n'a pas lieu d'être, alors je ne le fais pas. Mais quand quelque chose, je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est? Alors je peux très bien me dire, je ne comprends pas, mais bon, je ne comprends pas. C'est comme ça.
Oui, mais il ne faut pas que j'en ai trop quand même. S'il y en a trop,
alors je ne sais pas. Le problème, c'est il y a dans la Torah des mishpatim, des chukim et des torot. Ouais, et si c'est un chok, est-ce que un mishpat, c'est absolument pas du tout un chok, ou est-ce que c'est un chok mais où il m'est plus facile de dire des choses? C'est un chok qui éveille ma où mon imagination trouve plus facilement à se développer.
Parce que d'un côté, si c'est trop, entre guillemets, si c'est trop développable, on peut dire que cette loi, cette Torah, elle n'est pas divine, elle est humaine. Si c'est tout est incompréhensible, on peut dire, d'un côté, on peut dire. Enfin, à l'extrême, d'accord, c'est peut-être divin ou c'est peut-être un truc vraiment un délire.
On dit au nom d'Albert. Ouais. Albert disait que l'étonnant dans le monde, c'est qu'il est compréhensible, quoi.
C'est étonnant, voilà.
C'est quand même étonnant.
Parce qu'il ne faut pas rentrer aussi peut-être trop facilement dans le dire bon, nous on le fait. On ne comprend rien, mais comme c'est Hachem qui nous l'a dit, on le fait, et puis c'est tout. S'il y avait beaucoup, beaucoup de choses comme ça, je pense que ça
deviendrait musulman.
C'est presque. Pardon,
on deviendrait musulman. Oui. Pour la prochaine fois, on va essayer de voir si on peut regarder d'un peu plus près sur les hukim, voir si on a quelque chose de particulier à dire là-dessus. Si vous avez des lumières, vous pouvez vous entraîner pendant la semaine. On va s'arrêter là.